Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Dans le monde chrétien, tout le monde connaît ce texte, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Pas ceux qui se disent chrétiens. On connaît les 10 commandements. Alors on va relire ce passage. Nous allons parler de cette révélation fondamentale que Dieu a donnée aux hommes, chrétiens ou non. Mais pour nous, il y a un sens tout à fait particulier. Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà, que Dieu nous bénisse. Vous connaissez? Oui, un petit peu. Oui, les 10 commandements, c'est quelque chose qui est fort connu. J'aimerais en donner les raisons et l'utilité. D'abord, peut-être pourrions-nous régler cette question en disant que c'est tout simplement les 10 commandements, c'est une sorte, une forme de règle de vie. Je dirais, si vous me le permettez, c'est une règle du jeu de la vie. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme il existe un code civil, comme il existe un code de la route, un code du travail, c'est-à-dire ce sont des règles qui sont données. Il en existe dans tous les domaines, on pourrait parler du sport également, il y a des règles très strictes dans le sport. Il y a des règles à la maison, dans une famille, dans les relations qui régissent les enfants avec les parents avec les enfants, et il y a des choses qui sont tout à fait connues, pratiquées pour la paix. Pour la paix de chacun. Il y a des règles à l'école, un petit peu moins ces jours-ci, mais enfin bon, ça va revenir. Tranquillisons-nous. Il y a des règles partout. Parce qu'autrement, on peut s'imaginer ce que pourrait être la vie. Alors quand on est tout seul, il n'y a pas de problème, enfin, façon de parler. Mais quand on vit en société, quand on vit dans une communauté, c'est tout à fait différent. La loi est faite pour protéger et non pour restreindre la liberté. Quand nous avons commencé tout à l'heure notre temps de prière, avant le culte, j'ai lu ce texte. Il est question de la loi royale et il est ajouté de la loi de la liberté. Et ça, je crois que c'est important de soulever cela parce que n'allons pas imaginer que la loi de Dieu est faite pour restreindre notre liberté. Nous allons le découvrir à travers peut-être ce culte et puis peut-être je n'aurai pas fini, on prolongera une autre fois. Imaginons une société sans loi. Quelquefois, on se demande s'il reste encore quelque chose. Mais, de toute façon, la loi revient toujours à la surface, quelque part. Et c'est heureux, d'ailleurs. Parce que cela, eh bien, produit de l'anarchie, du désordre et le chaos. Et on voit malheureusement des pays dans le monde qui ont véritablement, eh bien, abdiqué la loi. Et ça, c'est terrible, parce que c'est soit, finalement, eh bien là, un état policier ou un état de mafia. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vu déjà dans notre monde. Et c'est terrible, parce que dans un sens ou dans un autre, c'est quand même une loi. Mais c'est une loi terrible. Ce sont des lois qui sont terribles, parce qu'au mépris de la liberté des gens, et au mépris de la justice. Alors, on apprend vite que la liberté existe que là où il y a le respect de l'ordre établi. Parce qu'autrement, ça ne peut pas fonctionner. Le respect des autres est du bien de tous. À partir du moment où je prends un pavé et que je l'envoie dans une vitrine, alors c'est sûr que j'encours là, eh bien, les rigueurs de la loi, mais je ne respecte pas le bien des autres. Je ne respecte pas les autres. Et puis, il y aura forcément des conséquences. La première loi est d'inspiration divine. Et elle est contenue en substance, nous pourrions dire, à travers ce que l'on appelle le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Le premier aspect, il y en a quelques-uns, comme ça il y en a au moins 3, le premier aspect du décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements, qui frappe le plus le lecteur qui en prend connaissance, ou nous-mêmes lorsque nous les lisons, c'est le sentiment, c'est l'injonction du devoir d'obéir. C'est-à-dire que je dois obéir. La parole ne me laisse pas d'autre, la règle ou les lois ne me laissent pas d'autre alternative. J'obéis, c'est tout. Tout simplement. Ça, c'est le premier sentiment que nous avons, c'est l'obéissance. Obligation de faire ou de ne pas faire en fonction, naturellement, de la formulation de la règle. Le deuxième aspect de ce que Dieu veut est ressenti souvent comme négatif. Je dois obéir, mais je le ressens comme quelque chose de négatif du genre « tu ne dois pas, tu ne dois pas », c'est-à-dire le « ne pas ». Vous comprenez, on l'a appris à l'école, qui est interprété fréquemment comme une entrave à notre liberté, voire même un empêchement. Quand on apprend le code de la route, on apprend qu'il y a des panneaux d'interdiction. C'est pas pour ça qu'ils sont respectés à chaque fois. Dans la majorité des cas, ils sont respectés, heureusement d'ailleurs. Mais néanmoins, quand on est pressé, on a bien envie de passer au feu orange. Et on sait ce que ça veut dire. Hein. Quelquefois, l'orange, il est vraiment très mûr. Ça arrive. Et on se dit, ah, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Alors on le vit comme un empêchement à notre expression, notre épanouissement de notre pleine liberté. Le troisième élément, c'est que la loi suscite dans notre esprit et dans notre conscience l'impression de crainte, le sentiment plus ou moins du mal. S'il y a une interdiction, c'est qu'il y a quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est dangereux, quelque chose qui peut être un péril, qui engendre la culpabilité. Et ça, c'est particulièrement la loi morale que nous trouvons dans la Bible. Je ne parle plus du code de la route, là. Mais, en tous les cas, une loi morale qui suscite une culpabilité. Je le sais, ma conscience me le dit. Attention, tu as dépassé les limites. Et quand elle ne devient pas parfois, quand il y a une excroissance de compréhension de cette loi, une véritable servilité, entendez par là, un esclavage. Nous en reparlerons tout à l'heure. Un esclavage. On sait aussi que les problèmes ne viennent pas de la loi elle-même, ou de Dieu qui l'a créée, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose au plus profond de moi-même, en moi, qui se rebelle et qui contredit ce que Dieu a voulu dès l'origine, à la fois de bon, de vrai et de juste pour moi. Et ce quelque chose, on l'appelle le péché. On est d'accord. Dans Romains, au chapitre 7 et au verset 12, par exemple, je voudrais vous lire ce texte. Et je l'ai choisi dans une traduction qui s'appelle la traduction de Lettres pour notre temps de Kuhn, parce qu'elle nous donne une autre, peut-être un peu plus d'extension, de compréhension dans les mots. Alors voilà ce qui est dit dans ce chapitre 7 de Romains, c'est véritablement là un monument, on peut dire, doctrinal. Et au verset 12, il est dit ceci, « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Et voilà ce que dit Kuhn. « Est-il donc possible que quelque chose de bon en soi ait des conséquences aussi néfastes ?» C'est ce qu'il est dit, hein. Vous n'avez peut-être pas retrouvé le même texte, mais écoutez bien. « Le bien peut-il me faire mourir ?» C'est incompréhensible. « Évidemment non. L'auteur de ce crime, c'est le péché. » Sa véritable nature devait être démasquée. Or, en me donnant la mort pour une bonne chose, il m'a montré son vrai visage, grâce au commandement. Il est apparu, dans toute sa virulence, le péché. Sa nature foncièrement maléfique a donc paru au grand jour. Et il ajoute, « Nous savons que la loi est inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle est donc spirituelle. » Mais moi, je ne le suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger, et voilà pourquoi je suis à la merci du péché qui a pris possession de moi. Vraiment, je ne me comprends pas moi-même. Ça vous est jamais arrivé, ça? Peut-être plus qu'à notre tour. Mon comportement me désoriente et mes propres actes, je ne les reconnais pas. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et que mon sens moral réprouve. Par mes convictions intimes, je rends hommage à la loi. Mon être profond l'approuve et en reconnaît l'excellence. Et on dit à ce moment-là, Amen. Mais, c'est plus fort que moi. Je ne puis faire autrement. Le véritable acteur, ce n'est donc plus moi, mais c'est le péché qui s'est installé en moi. C'est lui qui me pousse irrésistiblement à de mauvaises actions. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, rien n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque. Je prends des résolutions. Enfin, c'est moi qui l'ajoute, je paraphrase. C'est plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose et je commets le mal. Malgré moi, le mal que j'avais pourtant décidé à éviter, Si donc je fais ce que je ne veux pas, je ne suis plus vraiment libre de moi-même, c'est-à-dire que je ne suis plus libre. Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus moi, c'est le péché qui a eu domicile en moi. Voilà une autre façon d'exprimer ce texte essentiel de Romains chapitre 7. Vous pourrez le relire, le comparer, ça veut dire la même chose. Mais dans la traduction, il est parlé finalement des délibérations et des conflits, des batailles qui se livrent à l'intérieur de notre être intérieur, plus que la traduction seconde l'exprime. C'est pour ça que je l'ai choisi. En conséquence, Dieu a donné un cadre excellent, on est d'accord, pour me permettre de vivre ici-bas une vie meilleure, mais je constate que le mal est en moi. Je voulais vous poser une question. Est-ce que Paul a écrit ce texte avant ou après sa conversion? La loi me le dit et me le prouve tous les jours. Je reprends. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je pense qu'on est à peu près, on a fait à peu près toute cette expérience. On est parfois bien disposé, on se dit, ça y est, c'est fini, c'est réglé. Et puis, dans d'autres circonstances, quelquefois dans des temps de faiblesse, des temps de fatigue ou autre chose, on recommence. Je ne fais pas ce que je veux et je ne fais pas ce qui me plaît. Et pourtant, j'ai bien envie de faire ce qui me plaît. Parce que ça, c'est la nature même de l'homme. Après tout, pourquoi pas? La désobéissance fondamentale et l'infraction à la loi de Dieu a contaminé et est devenu le fléau numéro un de notre monde, de la société. On le voit s'exprimer dans la révolte sociale. Nous sommes en bonne place ces jours-ci. Le rejet de l'autorité. On ne veut rien entendre. La rébellion aux parents. C'est pas nouveau, mais me semble-t-il que ça va s'amplifier. Les contestations, les revendications en tout genre. Et devant peut-être parfois certaines choses qui sont tout à fait, qui tombent sous le sens, eh bien, on ne cesse de dire non, non, non. Je veux pas coller à l'actualité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui... Mais ça, c'est pas seulement le fait d'une société, c'est le fait de l'individu lui-même, quelque part. Si l'on décompose et l'on analyse les 10 commandements, on observera que les 4 premiers, intéressent les règles qui gouvernent la relation Dieu et les hommes. Et vous avez vu, il y a un texte quand même assez long, hein, c'est assez dans le paragraphe, il est assez fourni. Les 6 autres régissent les relations entre les hommes entre eux. Enfin, les hommes entre eux. On peut parler de commandements interpersonnels, c'est-à-dire qu'ils vont vers les autres. Le premier, les 4 premiers sont verticaux, les 6 autres sont horizontaux, si on veut une image un petit peu géométrique. En résumé, je vais les donner en résumé. Vous allez voir ce que ça donne. Quand Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu », ça c'est le premier commandement. Le deuxième, tu n'adoreras pas les idoles. Troisième, tu ne prendras pas mon nom en vain. Quatrième, souviens-toi du jour du repos pour l'honorer. Tout ça, c'est pour Dieu. Dieu savait-il que l'homme s'évertuerait à faire précisément le contraire? Je crois que Dieu le savait, mais il les a donnés quand même. C'est-à-dire avoir d'autres dieux, se faire des idoles, jurer ou injurier en utilisant le nom saint de Dieu et s'abîmer corps, âme et esprit dans ses passions le jour où il aurait dû se reposer. Et pourtant Dieu les a donnés. Il les a donnés parce qu'il savait que l'homme, finalement, eh bien, avait besoin de le savoir et que malgré qu'il le saurait, il ferait quand même le contraire. Et ça, c'était pas une loi au départ qui était destinée pour les païens, mais pour un peuple choisi qui était Israël, un peuple de connaissance. La loi a été donnée en vue d'une maladie mortelle. Faut rester dans cette pensée, hein. Il s'agit d'un malade. L'homme. L'humanité. Elle a été donnée donc en vue d'une maladie mortelle, le péché. Tout comme la médecine précise les règles d'hygiène élémentaires pour le maintien, la conservation et la réparation de la santé, alors qui les oublie et qui les néglige s'expose un jour ou l'autre à prendre à perdre son équilibre et sa santé. Si vous allez voir le médecin en disant « voilà, j'ai mal », il va vous dire « monsieur, je vais vous examiner », il va diagnostiquer juste, il va vous donner les médicaments, mais que finalement, avec ce que vous avez entendu, avec l'ordonnance, vous n'allez même pas chercher les médicaments et vous continuez à vivre comme ça, eh bien, vous allez continuer à avoir mal, mais ça n'ira qu'en se détériorant de plus en plus. Donc, on comprend cela, c'est très facile. C'est vrai que ça doit être probablement rébarbatif pour un malade de surveiller son poids quand il a un problème de ce côté-là, de faire un régime quand il a envie de manger et qu'il est par surpoids gourmand. Prendre à l'occasion des médicaments, parce qu'ils sont pas toujours bons, ces petits bonbons de toutes les couleurs, hein, ça c'est vrai. S'abstreindre à des examens, mais pourtant c'est vital. Parce que si on ne le fait pas bien qu'on sache qu'il faut le faire, alors automatiquement, eh bien, ça va aller en se détériorant. Dieu déclare formellement que l'ensemble des hommes sont pécheurs, sans exception. Il y en a eu qu'un qui est apparu dans le monde, c'est Jésus, saint. Donc sans exception, que soit ils ignorent la loi ou qu'ils ne veulent pas le savoir. Et c'est très souvent dans le deuxième cas, c'est-à-dire que les hommes connaissent la loi, même s'ils ne l'ont pas lue directement dans la Bible, en tous les cas, ils ont cette loi au fond de leur cœur, parce que Dieu l'y a inscrit. Alors ils ne veulent pas le savoir, et en tout état de cause, Dieu a été obligé de prévenir du danger par une forme apparemment négative, c'est-à-dire le « ne pas », comme pour en souligner l'importance. « Tu n'auras pas, tu ne feras pas, tu n'adoreras pas. » Alors on va en arriver à la phase positive tout à l'heure, et vous allez voir pourquoi que ça ne change rien en raison du péché, l'atavisme du péché qui est dans le cœur de l'homme. Dieu est obligé de mettre des sens interdits. C'est pas des panneaux de signalisation comme dans le code de la route. Vous savez, le triangle. Là, c'est des panneaux ronds avec du rouge dedans. Attention, danger. C'est ça la grande différence. Donc, nous, quand nous lisons la Bible ou quand un néophyte lit la Bible, il est en face, finalement, du ne pas, du négatif. Et Dieu est obligé de lui dire. Imaginons un instant que Dieu ait formulé autrement pour nous prévenir. C'est-à-dire qu'il ait dit les quatre premiers commandements, mais d'une manière positive. On va les voir, on va voir ce que ça donne. Par exemple, il aurait pu dire à l'homme, pour le premier commandement, « Je suis le seul, unique et vrai Dieu, et vous avez besoin absolument de moi. » Il n'a pas dit ça. Il l'a dit d'une manière absolument négative. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Point final. Ou encore, deuxième commandement, restez en relation directe et personnelle avec moi. Pour cela, pas besoin de vous représenter ma personne divine par des formes grossières d'or et de bois. Qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Ils ont fait des idoles. Il aurait pu le dire d'une manière positive. Il l'a dit d'une manière négative. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. Ou encore, troisième commandement. Je vous ai donné mon nom. Il est saint, alors respectez-le. Et les hommes se sont mis à jurer. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Il aurait pu le dire de cette façon. Je vous en supplie, mes enfants. Hein? Mon nom est saint, alors respectez-le. Ou encore, en quatrième position, le quatrième commandement. Je suis le créateur de ce monde merveilleux. Ouvrez vos yeux. Travaillez 6 jours et le 7e jour, détendez-vous, prenez du plaisir à tout ce que j'ai fait, en n'oubliant jamais que c'est moi qui l'ai fait. Ça aurait pu être formulé de cette manière. Qu'est-ce que ça aurait été gentil d'entendre les choses comme ça? Mais Dieu leur a dit, tu respecteras le 7e jour, etc., etc. Tu ne travailleras pas, en tous les cas. Mais que l'on fasse d'une manière ou d'une autre, ça n'élève pas plus la volonté, le cœur de l'homme, et l'inspirant véritablement à obéir à Dieu, d'une façon ou d'une autre. C'est vrai qu'il aurait pu se manifester tout autant de cette manière, mais la question que nous nous posons, est-ce qu'il aurait été davantage écouté? Mais il avait en vue quelque chose en nous donnant des commandements négatifs. Il avait autre chose, on va le comprendre. Nous allons poursuivre maintenant notre réflexion dans cette version positive. Tu ne tueras point. Dieu aurait pu dire, la vie humaine est unique, sacrée, respectez-la au plus haut point. Il a dit, tu ne tueras pas, c'est tout. Tu ne commettras pas d'adultère, par exemple. Dieu aurait pu expliquer et délayer pour que nous comprenions mieux sa volonté en ce qui concerne la vie morale et éviter les dérapages du genre. Ou Dieu aurait pu nous dire de cette manière, c'est dans le mariage uniquement qu'est la relation la plus profonde entre un homme et une femme. Alors on est d'accord là-dessus, hein? Le mariage seul est la réponse satisfaisante au grave problème de la solitude. Il cimente la fidélité et il permet l'épanouissement dans l'amour. Il aurait pu donner ce commandement. Il a dit, tu n'auras pas d'adultère, point final. Quand on arrive à un autre commandement, c'est tu ne porteras pas de faux témoignages. Il aurait pu nous dire positivement, je suis le Dieu de la vérité. Vous savez que le faux témoignage, c'est le mensonge, hein, on est d'accord. Je suis le Dieu de la vérité, sachez que le mensonge détruit la confiance dans les relations. Et c'est vrai, quand on commence à mentir, eh bien, la confiance est abîmée. Prouvez par votre vie ou prouvez votre vie durant que vous êtes digne de confiance en vous abstenant de mentir. Ça se comprend, ça aussi. Autre commandement, tu ne convoiteras pas la maison, la femme, le serviteur, le bœuf, aucun bien de ton prochain. Pour simplifier, Dieu aurait pu dire, je vous ai donné en partage, je vous ai tout donné en partage, cependant attention, les personnes ont plus de valeur que les choses. Aimez les hommes et servez-vous des choses sans vous servir de vos semblables pour satisfaire votre amour des choses. Comprenez? C'est une autre façon de dire les choses. Là, je suis en train de m'appliquer à voir comment les choses auraient pu être dites. Et les réactions que les hommes peuvent avoir, tant dans une présentation positive que dans une présentation négative. Et ça, on le comprend, nous. Et c'est vrai, qu'on peut le comprendre, c'est facile à comprendre, mais Dieu ne l'a pas donné. Et pourquoi ne l'a-t-il pas donné de cette manière? Et voilà la question qui est intéressante, d'aller plus loin. Quand bien même nous avons le sentiment que la loi nous prive de quelque chose de bon, parce que c'est le négatif, en sachant que certaines choses sont mauvaises, bon, c'est-à-dire qu'on est toujours en balance, on se dit, ben oui, mais Dieu fait grand cas d'une chose qu'il nous a donnée à l'origine de la création, c'est notre liberté. Et vous allez voir, quand on regarde les choses, quand elles sont présentées comme Dieu les a présentées, il a choisi juste en nous disant « ne pas ». Parce que s'il avait tenu le langage que j'ai tenu tout à l'heure en mettant les choses positivement, ça aurait été, bah vous allez comprendre, ça aurait été autre chose. Pourquoi Dieu nous a-t-il parlé à travers ces 10 commandements et de cette manière? Vous allez me dire, bah oui, mais je comprends pas ça comme ça. Eh bien, c'est précisément, contrairement à ce que nous pouvons penser, c'est pour nous garantir notre liberté de choix, notre libre arbitre. Parce que l'homme qu'il a créé, qu'il a mis sur la terre, n'est pas un automate. Nous ne sommes pas des robots et nous ne sommes pas des machines qui, eh bien là, abdiquons finalement notre intelligence, parce que l'intelligence, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Mais il nous a précisément mis devant des panneaux d'interdiction pour que devant ce panneau, nous nous arrêtions devant ou nous passions en disant « je fais ma volonté et je fais ce que je veux ». La différence, elle est là. La liberté. Vous êtes content d'avoir votre liberté, hein ? Ouais. Nous sommes dans un pays où nous pouvons bénir le Seigneur au lieu de crier dans les rues, d'avoir la liberté, mes frères et sœurs. Parce que vous savez, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Ça n'a pas été le cas dans notre vie civile de Français. Mais ça n'a pas été le cas toujours dans notre vie religieuse de Français. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a qui ont payé très cher, hein, la liberté de conscience. Et vous savez, on ne sait pas ce qu'on a entre les mains. De pouvoir dans être un pays riche, un pays libre, un pays démocratique. Je ne veux pas faire de politique, je ne me présente pas aux élections l'année prochaine. Mais quand même, notre liberté... Et nous, les Français, nous aimons notre chère liberté, liberté chérie. Eh bien, Dieu aussi a égard de notre liberté, parce qu'il n'a pas fait de ses enfants qu'il a appelés des robots et des machines. C'est ça la grande différence. Un ordre négatif, c'est-à-dire ne pas, est moins limitatif qu'un commandement positif. Je vais vous donner des exemples. Ouais, ça paraît absurde comme ça quand je le dis, mais vous allez voir que ça fait la différence. Quand il est dit « tu ne commettras pas d'adultère », eh bien, quand j'entends cette injonction de la part de Dieu, cette injonction est plus libératrice que si Dieu avait dit aux hommes « tu te contenteras d'une seule femme dans ta vie ». Ce sera comme ça. Parce que c'est ainsi. Ou alors « tu ne convoiteras pas », libère davantage que la règle stricte d'un droit de possession défini tel que tout homme dans son existence aura droit à une maison, pas plus, hein, une voiture, 4 enfants, un bœuf, un âne, et puis tout le reste. Mais très limitatif. Comprenez ce que ça veut dire, ça? Dieu ne nous a pas enfermés dans une loi d'une règle stricte. Si nous avons envie d'avoir 2 maisons, si nous avons envie d'avoir ceci et cela, il n'y a que, en ce qui concerne la femme et le mari, là c'est autre chose, on est bien d'accord. Mais autrement, pour les choses de la vie et de la jouissance de la vie, mais Dieu ne nous a pas encadrés dans un sens où il nous a dit « tu n'auras que ça, et puis c'est tout, tu t'en contenteras ». Il nous a simplement dit « tu ne combattras pas ». Voilà. Et après, eh bien, c'est notre liberté. Et on va voir, parce que peut-être que ça vous choque jusqu'ici un petit peu, vous êtes un petit peu titillé, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va prendre le relais. Je le dis tout de suite parce que je voudrais vous tranquilliser et de dire où est-ce que Alain nous emmène. Il y a quelque chose qui va faire la différence dans l'obéissance à la loi divine qui nous donne et qui nous octroie la véritable liberté de vivre et de vivre véritablement sous le regard de Dieu. C'est l'amour que nous avons, Seigneur. Mais maintenant, je referme la parenthèse parce que ça sera peut-être pour la prochaine fois, l'amour. C'est ce qui nous amène à une autre dimension. Parce qu'on peut obéir à la loi de Dieu sans amour dans notre cœur. Et on peut obéir avec un esprit de servilité, un esprit d'esclave. Et là, Dieu n'en veut pas. Il veut des êtres qu'il a créés, qui viennent à lui et qui s'épanchent en lui et qui se précipitent vers lui en disant « Mais Seigneur, je t'aime ». Et quand on aime, tout devient facile. Tout devient simple. Et tout devient accessible. et on peut obéir à ce moment-là quand on aime. C'est la règle. Mais ça sera peut-être pour la prochaine fois. Finalement, quelle est la raison de Dieu dans tout ça ? En adoptant le principe du ne pas, Dieu a sanctionné le péché. C'est pas l'homme qui l'a sanctionné, mais c'est le péché. Au fond des cœurs, sans nous laisser dans l'illusion que nous serions suffisamment sages pour nous conduire en faisant naturellement et toujours ce qui est bon, juste et bien. Et c'était le problème des pharisiens. Vous savez, ces individus-là du temps de Jésus, avant Jésus, et puis même l'esprit pharisien a toujours subsisté, hein. C'est-à-dire que l'on pense devant la loi de Dieu que quelque part on est sage, on est bien, on est juste. Seigneur, je rentre dans ton temple. Mais qu'est-ce que tu dois être content de me voir arriver dans ta maison? Parce que moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Tu sais, je donne la dîme de tous mes biens, etc., etc. Et je ne suis même pas comme ce pauvre type qui est dans le fond du temple, qui est en train de se frapper la poitrine. Hein, je ne suis pas comme lui, parce que lui, c'est un publicain, c'est un homme de mauvaise vie. Et c'est ça, justement, précisément, ce que le Seigneur veut mettre en garde, parce que c'est encore plus grave que tout le reste. Cet esprit pharisaïque, cet esprit qui est là, pour finalement de dire, eh bien, quelque part avec mes efforts personnels, je suis capable de satisfaire la volonté de Dieu. Aucun n'est capable de satisfaire la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Et ça, il faut bien le comprendre. Et si nous le disons, et qu'en plus nous nous le disons, et quelquefois nous jugeons les autres, Dieu permettra à un moment ou à un autre que nous tombions dans des péchés grossiers qui vont nous humilier au plus haut point pour nous dire, eh bien, tu vois, t'es pas mieux que les autres. Parce que la mentalité et la moralité du monde dans lequel nous sommes, j'ai pas tué, j'ai volé, donc je suis injuste. Alors, un, juste. Vous voyez la différence? Alors, à ce moment-là, c'est tellement répandu que quelquefois, ça vient même pénétrer, interpénétrer la conscience, l'âme, le cœur, l'esprit, la pensée des chrétiens. Eh oui, la différence, elle est là. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer les choses. Et on va prendre notre temps de bien expliquer les choses pour dire, Seigneur, si je suis sauvé aujourd'hui, mais c'est pas parce que je le mérite. Et là, on tombe tout à fait dans l'esprit du Nouveau Testament de l'Évangile. Je suis sauvé, Jésus, je peux me mettre à genoux. Mais c'est par grâce. Et je n'ai rien à revendiquer. Tout est grâce. Et tout vient de la miséricorde de mon Dieu. Je ne suis rien. Et je ne peux rien par moi-même. Alors, le croire, c'est une illusion. Et toutes les religions de la terre, chrétiennes ou non chrétiennes, évangéliques et pentecôtistes, j'ose le dire, ont marché souvent dans ce terrain-là. Parce que ce n'est pas une question de l'être, frères et sœurs. Vous savez ce que Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et à notre conversion, le Seigneur nous a amenés non pas à vivre dans un cercle restreint d'une lettre qui est morte avec des traditions, avec toutes sortes de choses, mais nous a appelés à prendre la dimension de la vie de l'esprit qui est la liberté. Là où est l'esprit, là est la liberté, nous dit Paul dans Corinthiens. Mes frères et sœurs, nous avons besoin, dans la grâce de Dieu, de pas descendre, mais de monter. De monter. Et de monter très haut, parce que on ne soupçonne pas ce que Dieu a préparé de bon. De libératoire, d'épanouissement, de vie d'une plénitude et d'intensité que finalement nous trouvons que dans la dimension de la vie de l'esprit. Et je dis que la loi, elle est bonne, elle est juste, elle est sainte. Mais elle n'est pas faite pour que nous restions dedans. Elle n'est pas faite pour qu'elle nous enchaîne et qu'elle nous enserre. Elle est faite pour autre chose. Alors donc, toutes les religions se sont engouffrées en expliquant les 10 commandements. En prolongeant les 10 commandements, en inventant une kyrielle de lois supplémentaires qui, pour finir, ont éloigné les hommes de Dieu, l'ont culpabilisé à mort dans certains cas, l'ont découragé. C'est bien pour ça que Jésus, quand il viendra et quand il s'adressera à ses contemporains dans l'Évangile, si vous voulez, eh bien vous retrouvez dans Marc chapitre 7, quand Jésus dit « Mais vous avez changé la loi de Dieu ». Au profit de vos traditions et de vos commandements d'hommes. Ça, c'était le problème des pharisiens. Ah, ils étaient très scrupuleux, méticuleux, il y avait là la dîme de ceci, la dîme de cela, etc. Partout où ils se tournaient, ils étaient véritablement en apparence, eh bien, c'était le nec plus ultra de la société d'Israël. Mais à travers ça, Jésus leur dira dans le serment sur la montagne, mais qu'est-ce que vous avez dans vos cœurs? Si tu te mets en colère contre ton frère, eh bien, moi, je te dis que finalement, tu as déjà commis un crime. Vous savez, Jésus les a pas ratés. Hein. Il a su faire les choses parce que Jésus voyait ce qu'il pouvait y avoir dans le cœur et pas dans les apparences. Les religions qui ont vanté la loi comme moyen de salut, et quelquefois on a enlevé le sacrifice de Jésus en disant « Mais maintenant vous êtes sauvés parce que vous allez faire ceci, vous allez faire cela. » On n'est pas sauvés parce que l'on fait, on est sauvés parce que l'on croit. Faut-il le rappeler ce matin ? C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Merci Seigneur. Ouais, merci Seigneur de ce que je ne suis pas sauvé par mes bonnes œuvres. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, je parle pour moi. Mais parce que je crois tout simplement en toi. Et parce que je m'aperçois que quand plus je regarde vers moi, plus je me sens pauvre, plus je me sens indigent, plus je me sens misérable et que j'ai vraiment besoin de ta grâce pour vivre. Alors ces religions se sont trompées. En trompant les hommes, en oubliant le principal et l'essentiel, c'est-à-dire l'Évangile, l'esprit de l'Évangile qui remplace désormais la loi par la grâce. Le devoir par l'amour, l'effort par notre abandon entre les mains de Dieu et le mérite par la foi. Manqué, il faut dire qu'on a été drôlement éduqués. Enfin, moi, je viens de la religion catholique. Et tout petit, dans une famille quand même assez religieuse, je peux vous dire qu'on m'en a mis un petit peu. Et c'est vrai que c'est pas facile. Après. On a des réflexes, on a des réactions qui sont des réactions de mérite. Des réactions qui nous collent à la peau, qui sont là et qui s'incrustent. Et on se dit, quand on veut faire quelque chose, on se dit, on revient toujours à ces vieux rudiments. Mais c'est pas le mérite, hein. Mais c'est tout simplement parce que Jésus a mérité pour moi. Tout simplement à la croix. Que dit la parole de Dieu ? Eh bien, dans Éphésiens chapitre 2, je l'ai déjà cité, mais je le cite encore, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, pas se tromper avec entre le F et le L, hein. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don, c'est un cadeau, c'est un présent de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans Galates 5, l'apôtre Paul ajoute, vous êtes séparés de Christ si vous cherchez à être justifiés par la loi. Vous êtes déchu de la grâce, parce qu'on ne peut pas être à la fois dans la grâce et dans la loi. On est passé de la loi à la grâce, et la loi nous a montré que nous étions incapables. Alors à ce moment-là, on avait besoin d'un sauveur, parce que nous étions perdus, et perdus à cause du péché que la loi nous a révélé. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit « La puissance du péché, c'est la loi ». Mais encore et surtout, cette parole dans Jacques chapitre 2, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. À vous, coupez les bras. Parce que vous pouvez faire des efforts toute votre vie pour vraiment satisfaire 9 commandements, mais il y en a un que vous n'y arrivez pas. Et la parole me dit, si tu n'arrives pas à celui-ci, c'est comme si tu avais transgressé tous les autres. Nombre de chrétiens, frères et sœurs, et à travers tous les temps et tous les siècles. Ces paroles ont été un véritable tourment dans leur conscience morale. Se sont dit, mais Seigneur, j'y arriverai jamais. Eh bien, c'est quand on dit, j'y arriverai pas, que Dieu dit, maintenant, tu vas y arriver avec moi, mais pas sans moi. Tu as besoin de moi. Ça dépend du tempérament et du caractère que l'on a et de l'éducation qu'on a reçue. C'est vrai, j'en tiens compte. Il y a des gens qui ont une volonté de faire, qui sont forts intérieurement. Et c'est peut-être avec ces gens-là que le Seigneur a le plus de mal, finalement. Regardez l'apôtre Paul ou Moïse, hein. C'est pas des petits caractères, hein, quand même. Hein. Eh oui, hein. Puis il y en a d'autres. C'est peut-être plus facile en raison de certains paramètres qui sont là, caractéristiques de leur vie. Pourtant, un chrétien ne peut plus vivre désormais sous le régime de la loi, au risque de demeurer dans une sorte d'enfance spirituelle. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'ABC, quand on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion, c'est plus la maternelle. Excusez-moi, hein. Si vous avez un enfant qui a 25 ans et que vous l'emmenez tous les matins, et bien là, en cours préparatoire ou des choses comme ça, ça va faire un drôle d'effet, hein. Et pour lui, pour les autres aussi. Eh bien, on ne peut pas se permettre de rester. Il faut grandir. Il faut progresser. Quand Paul dit aller de progrès en progrès, c'est qu'il parle de notre vie spirituelle. Ce qui veut dire, alors la question pathétique se pose, pourquoi Dieu a-t-il permis et donner la loi. Alors on va l'expliquer d'une manière très simple, c'est que la loi de Dieu, qui est un cadre élémentaire, je dis bien élémentaire, parce que dans la vie il y a des écoles élémentaires, des écoles primaires, des écoles secondaires et des écoles supérieures. Et Dieu veut que dans tout notre passage existentiel sur cette terre en tant que chrétien, eh bien nous arrivions à l'école supérieure. Que nous soyons mûrs comme une gerbe en son temps pour être recueillis dans son paradis, dans sa gloire. Et pas des petits-enfants. Il est question de petits-enfants dans la Bible, mais il est question aussi d'hommes et de femmes faits en Jésus-Christ, matures spirituels. Donc c'est un cadre élémentaire. La loi de Dieu du décalogue exprime ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est bon. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Romains chapitre 7. Et nous ne remettons pas, et n'allez pas vous méprendre sur ce que je dis, je ne remets pas en cause la loi de Dieu. Et pourtant, et pour autant que nous y reconnaissons que son caractère même est la sainteté, la vérité et la justice, alors nous pouvons comparer cette loi à un tuteur. Des tuteurs, il y en a pour accompagner des personnes qui ne sont pas capables de vivre toutes seules. Et on en met en horticulture aux plantes qui n'ont pas suffisamment une tige assez forte ou un jeune arbre pour ne pas qu'ils soient cassés par la tempête. On met des tuteurs. Et tout tuteur, c'est quelque chose de droit. D'accord ? C'est quelque chose de rigide. Vous n'avez pas vu des tuteurs tordus ? Si les nouveaux pieds de tomates, là, vous savez, ils font des trucs, mais ça, c'est pour que la plante, elle monte comme ça en vrille. Mais autrement, c'est quand même droit. De toute manière, on reste sur cette image. Un tuteur, c'est droit, c'est rigide, c'est raide, et c'est fixe, c'est ferme, et ça ne doit pas fléchir. Et c'est tout le but d'un tuteur. Si un tuteur y plie, alors ça sert à rien de mettre un tuteur. Parce que la confiance l'exige. Si je m'appuie sur quelqu'un qui s'écroule à côté de moi, ben, c'est pas la peine que je m'appuie sur lui, c'est plus un tuteur. Faut que ça soit finalement ferme, et parce que c'est ferme, ça me donne confiance. Automatiquement, je m'appuie dessus. Néanmoins, son interprétation stricte peut être dangereuse dans son application, car elle ne laisse aucune possibilité que l'obligation et le devoir. Et vous savez très bien que dans la vie, il y a des obligations, il y a des devoirs, mais il y a des privilèges et des bénéfices. Aujourd'hui, dans notre monde, on oublie que on dit qu'il n'y a que des bénéfices et des privilèges, et on oublie qu'il y a des devoirs et des obligations. Ça, c'est l'extrême, le cas contraire de ce que je suis en train d'expliquer ce matin. Mais ça, c'est le monde. La crainte de toujours mal faire. Il y a des gens, quand ils sont face à la loi de Dieu, ils ne vivent plus. La crainte de devoir mal faire éclipse le bonheur de faire le bien. Et je dirais même le plaisir de faire le bien, parce qu'il y a un plaisir à faire le bien. Je sais qu'il y a des gens qui ont plaisir à faire le mal. Trouver plaisir à l'injustice et à faire le mal, nous dit Paul dans Romains chapitre 1er. Bon, ça c'est une chose. Mais néanmoins, quand on vit continuellement le dos courbé et que l'on regarde, on se dit « Oh là là Seigneur, mais c'est pas possible. Oh, j'ai certainement ce matin ou en fin de journée, j'ai certainement enfreint au moins une dizaine de tes commandements. Oh, j'en ai enfreint au moins 11 ou 12. Il y en a que 10. » Enfin bon, c'est une petite... Mais... Je veux dire que si on vit véritablement crispé comme ça, mais on ne vit pas. Et Dieu ne veut pas que nous vivions comme ça. Il nous explique pourquoi. Alors cela va éclipser le plaisir ou le bonheur de faire le bien. Un jeune arbre, je reviens à des notions d'horticulteur trop serré au tuteur qui le soutient. Ben vous savez, les horticulteurs ou les jardiniers le savent. Hein. Eh bien, il va s'étouffer, il va s'étrangler et même se briser au risque de compromettre sa croissance supérieure. C'est-à-dire qu'il est tellement serré autour de sa bague, il a peut-être un tronc plus large, vous savez, ça fait des boursouflures. Et à un moment donné, s'il doit casser quelque part, il va casser à ce niveau-là. Au niveau de la bague, au niveau de ce qui le serre. Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de gens qui cassent, il y a des chrétiens qui cassent, parce qu'ils ont été trop serrés au niveau de la bague. Ils ont peut-être grandi d'un autre côté, mais là, à un moment donné, il y a un coup de vent, il y a une tempête, et bam, ils vont être cassés par la loi. Il faut le comprendre. La rigidité de la loi n'est pas faite pour nous accabler, mais pour nous libérer. Alors, c'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Pour nous libérer, et il n'y a qu'un seul moyen de pallier au problème qui réconcilie la raison et la valeur de la loi divine et la liberté que Dieu offre dans une vie chrétienne épanouie. C'est pour ça que Paul dira dans Galates chapitre 5 verset 1er. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. De grâce, ne vous remettez pas sous un joug et de revenir à l'esclavage. » Il avait raison. C'est une compréhension spirituelle des choses, de notre vie chrétienne, de notre approche de Dieu. Et vous savez, c'est essentiel. Ce que je regrette, c'est qu'on ne l'enseigne plus dans les églises. On va dans un sens ou dans un autre. On va vers un libéralisme outrancier où on dit aux gens, maintenant vous êtes libérés, vous faites tout ce que vous voulez. Et les gens, ils ne se privent pas. Hein. Ou alors on leur dit maintenant, bah, vous savez, le monde est difficile, attention, le monde est partout, le mal est partout. Alors on enserre les gens dans une prison, on les rend captifs. Ils n'arrivent plus à respirer. C'est le ne goûte pas, ne touche pas, ne respire pas, vous savez. C'est Paul, oui Paul, parce que Paul c'était quand même un juif, hein, et il était pharisien, excessif, dira-t-il, il exagérait les choses, mais c'est quand même lui qui nous enseigne ça, parce que c'était un homme qui avait trouvé la liberté chrétienne, et qui pouvait nous dire toutes ces choses, et Paul nous en livre le secret, quand il dit ceci, ainsi la loi était comme pédagogue, c'est-à-dire un précepteur, un instituteur, un professeur, c'est comme ça que nous devons lire l'Ancien Testament. Pour nous conduire à Christ, pour nous conduire à celui qui nous libère, afin que nous soyons justifiés par la foi et pas par la loi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, frères et sœurs. Moi, je voudrais que vous compreniez que nous ne sommes plus sous la loi aujourd'hui. Ouais. Nous sommes dans la liberté en Christ, dans l'amour de Christ qui nous rend capables de lui obéir, sans que nous soyons là, étouffés, étranglés, et que nous ayons une vie qui finalement, eh bien là, quelquefois, qui arrive que les gens du monde, quand ils nous voient, ils se disent, ben, si c'est ça, vivre chrétien, moi je veux pas de leur christianisme. C'est ce qu'on appelle dans le temps, dans nos églises, les bigots et les bigotes. Excusez-moi, hein, je parle franchement. Hein. Non mais c'est vrai. C'est vrai. On doit donner envie aux gens de vouloir venir à Jésus. On doit leur dire, mais voilà, ils doivent dire de nous, mais c'est vraiment le sel et la lumière du monde que ces gens-là, j'ai tellement envie de vivre leur foi et leur enthousiasme, ceci et cela. Alors nous avons besoin de rentrer dans cette dimension qui nous libère. Le mot pédagogue vient du mot enfant. On le trouve en médecine, hein, on le voit. Ça veut dire instructeur d'enfants. Et ça signifie celui qui surveille, celui qui accompagne, celui qui conduit, celui qui instruit en vue de faire devenir, de faire de cet enfant, le faire devenir un adulte. Qu'est-ce que nous avons fait avec nos enfants? Ben, on les a traités comme ils étaient selon leur âge. Hein, quand ils avaient 5 ans, ben, on les a traités avec un âge de 5 ans. Après, ils ont pris un peu de maturité, ils ont eu 12 ans. Et puis après, puis maintenant, moi, je vois mes enfants, ils ont tous quitté la maison, ben, je les traite plus comme des enfants, hein. D'ailleurs, il ne le permettrait pas. Quelquefois, quand j'ai des petits mots affectueux, je leur dis ceci et cela. Et puis, il me dit, hey, « Hé, papa, j'ai grandi. » Bon, ils ont raison. Hein. Ils ont raison. Mais c'est normal. C'est normal. C'est ça, la vie, de toute façon. En vue de devenir des adultes. La loi a eu ce rôle dans l'Ancien Testament et elle le demeure dans toutes les phases successives de l'histoire du règne de Dieu. À chaque époque et à chaque stade, nous devons grandir de plus en plus. C'est pas pour être là encore de plus en plus serré, étouffé, mais c'est pour que nous trouvions une liberté, mais cette liberté ne peut s'exprimer que véritablement où là nous rentrons dans cette plénitude de l'amour de Dieu. Il y avait une publicité à un moment donné qui passait, oh c'est vieux ça, hein, et peut-être vous en souvenez, c'était pour un produit alimentaire, je dirais que ça. C'était « Quand on aime, on ne compte pas ». Vous vous souvenez de ça ?« Quand on aime, on ne compte pas ». Eh bien, c'est vrai que les publicistes, ils avaient tout à fait raison. Parce que véritablement, quand on aime, on ne compte pas. Et on ne compte pas les efforts. On ne compte pas ce que ça va coûter, parce qu'on aime. Bon, c'était tout à fait pour les choses indifférentes de la vie. Hein. Mais c'est vrai que ça peut être aussi une vérité. Parce qu'à ce moment-là, si Dieu me demande des choses difficiles, mais parce que j'aime le Seigneur, mais je vais les faire. Mais je vais les faire par amour. Je ne veux pas les faire par devoir, je ne veux pas les faire parce que j'ai peur, je ne veux pas les faire parce que je tremble devant mon Dieu, je veux les faire parce que je l'aime. Qu'est-ce que nous avons fait vis-à-vis de nos parents, nos propres parents? Moi, j'ai eu des bons parents. Ils ne sont plus là maintenant, mais je sais qu'ils étaient bons, j'ai pu l'apprécier qu'ils étaient bons. Mais quand je n'ai pas toujours obéi, hein, ça c'est c'était hors de... Mais une chose qui est certaine, c'est que quand mon père me disait des choses parce que j'aimais mon père, eh bien, je le faisais, parce que je l'aimais. Et j'étais pas là devant lui en tremblant en disant « Papa, non, parce que je l'aimais tout simplement. Et avec Dieu, c'est le même rapport que nous pouvons avoir. Ça devrait nous instruire, ça nous instruit tout ça. Vu par Paul, voici comment procède la loi. Elle nous conduit, elle nous punit, elle prévient, elle reprend, elle censure. Non dans l'intention de détruire. Ouais. Non pas pour détruire, mais dans la perspective de nous préparer à grandir en Jésus-Christ. Nous préparer à la liberté chrétienne. Nous préparer à rentrer dans la liberté spirituelle qui en découle. Nous pouvons dire que nous sommes des hommes libres, des hommes et des femmes libres, et nous avons à le prouver, à le montrer autour de nous, dans notre vie. Trop souvent, on a montré un spectacle de gens qui se disaient chrétiens, qui étaient chrétiens. Regardez comme je suis joyeux. C'est terrible. Eh bien, quand on est joyeux, on fait marcher ses zygomatiques. Et on chante des cantiques de tout notre cœur, comme on l'a chanté ce matin. On tape dans les mains si c'est nécessaire. On ne va pas sauter au plafond, c'est déconseillé. Surtout pour le plafond, il n'est pas très solide. Mais toujours est-il qu'on montre notre joie, on montre qu'on est chrétien et qu'on a envie de porter le témoignage parce qu'on est dans un monde triste où toute la joie, c'est une joie fugace, c'est une joie futile que les gens sont en train de nous montrer. Ils ont un masque, ils sont en apparence comme ça, commercialement, en sourire. Mais au fond de leur cœur, quand on connaît les détresses qu'il y a, alors on se dit, mais véritablement, il y a des abîmes de souffrance, de désarroi et de désespoir. Et nous, le chrétien, doit pouvoir apporter finalement ce que le monde n'a pas, non pas tant avec des paroles, mais de la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous vivons, et la manière dont nous sommes capables d'aller voir ces gens et de les aimer comme ils sont, et de leur parler de Jésus, parce que Jésus les aime. À ce titre, plus d'une âme a souffert de l'aiguillon de la loi, parce que la loi nous révèle toujours notre péché. Et plus elle est heureuse d'en être enfin affranchie par Christ, plus cette âme sera capable de parler de Christ autour d'elle. Christ, c'est la vie. Christ, c'est la liberté. Christ, c'est la paix. Christ, c'est la joie. Christ, c'est le bonheur. Et c'est ça ce que le Seigneur veut implanter au fond de nous-mêmes pour que nous le portions aux autres. Car Christ est la fin de la loi, nous dit Paul dans Romains chapitre 10 au verset 4, il dit ceci, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Je vais m'arrêter là si vous voulez. Ça va? Oui, c'est pas trop? Non. Je vais m'arrêter là, on verra ça la semaine prochaine. On verra la réponse à la question. Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Et comment vivre la loi? Là, on a parlé de du cadre, on a parlé de l'obéissance, on a parlé du positif et du négatif, on a parlé de la liberté, parce que Dieu veut notre liberté, mais on parlera de la solution, parce que c'est ça. Parce que si je m'y mets maintenant, on y est jusqu'à 1,5 millions. Hein. Et la solution, c'est la force d'aimer. C'est la loi de l'amour, parce qu'il existe une loi, de la loi de l'amour. C'est autre chose. Et on s'imprégnera de cette loi d'amour pour être des hommes et des femmes affranchis. Alors avec ce qu'on a entendu cet après-midi, ce matin, on peut bénir le Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ouais. Moi j'ai envie de bénir le Seigneur parce que quand on a compris ça, on a compris véritablement l'essentiel de l'appel que Dieu nous a donné. C'était une loi de liberté et une loi d'amour que nous avons été conviés. Et ça c'est quelque chose. Et je sais par l'expérience pastorale, qu'il y a malheureusement dans beaucoup de régions, beaucoup d'églises, des frères et des sœurs qui sont encore, eh bien là, dans cette crainte de Dieu. Ouais, dans cette crainte de Dieu. Dieu est amour. Et il nous est dit que l'amour bannit la crainte. Alors mes frères et mes sœurs, je crois qu'on est sur un chemin qui ne nous amène pas à régresser, mais un chemin qui nous amène à évoluer. Et par-delà mes paroles, je tiens à le dire en conclusion, moi je ne suis qu'un homme. Le Seigneur m'a mis à cœur de dire ces choses. Je ne suis qu'un homme. Ce n'est pas vers moi que vous devez regarder. Vous auriez grand tort. Mais c'est de laisser maintenant le Saint-Esprit vous amener à comprendre ce qui a été dit, à comprendre sa parole. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain. Peut-être que certains, ça peut être une révélation. Moi j'ai vu des gens qui à un moment ou un autre, après s'être bataillé pendant des mois et des années autour de toutes ces questions,
la lumière est venue et ils sont rentrés dans une autre dimension. Mais quelquefois, eh bien, ça prend des jours, ça prend des semaines, ça prend des mois, où nous faisons un pas en avant, nous en faisons encore 10 en arrière, et là, il y a encore des tiraillements, etc., etc., parce qu'il y en a un qui veut pas vous, qui veut vous empêcher finalement d'avancer. C'est le diable. Que si vous lisez, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est bien question que c'est lui le prince, hein, de tout ça, pour empêcher les hommes d'avancer. Pour vous empêcher de vous épanouir. Parce qu'il sait que très bien, si vous êtes épanoui et que vous rentrez dans cette dimension de la grâce et de l'amour, bah, vous êtes à ce moment-là des véritables serviteurs de Dieu, en esprit et en vérité, et non pas selon la chair. Alors que Dieu nous donne sa grâce. Et laissons maintenant le Seigneur faire les choses, tranquillement, paisiblement, mais il va les faire, et nous allons simplement le bénir et le remercier de tout notre cœur. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que ce que nous disons, Seigneur, c'est que nous aussi nous avons eu des combats, c'est que nous aussi nous avons eu des tiraillements, c'est que nous aussi nous avons pleuré parfois devant ce texte de Romains chapitre 7, et nous nous sommes reconnus, et nous avons, Seigneur, en effet mesuré combien nous avions besoin d'un Sauveur qui nous sauve, d'un Sauveur qui nous libère, même si déjà nous avions fait l'expérience de la repentance, de la conversion, mais il manquait encore quelque chose, des étapes qui n'avaient pas été faites. Alors Seigneur, toi tu es Seigneur celui qui nous prend, non pas comme un maître rigoureux, mais comme un bon père. Parce que c'est vrai, Seigneur, que si tu es appelé dans l'Ancien Testament le Dieu d'Israël, ou le Dieu du ciel et de la terre, dans le Nouveau Testament, Jésus te donne un nom nouveau, qui est aussi le nom que nous pouvons utiliser, Père qui es aux cieux. Alors c'est vrai que ma relation avec un Père qui es aux cieux, c'est différent qu'avec un Dieu que je ne vois pas, qui est perdu dans l'univers. Oui, Seigneur, je veux te demander, Seigneur, que tu visites mes frères et mes sœurs, et que tu leur fasses du bien, Seigneur. Que tu leur fasses du bien par ton Saint-Esprit. Moi, je suis incapable d'aller plus loin, mais toi, tu es capable, en fonction de chaque personnalité, en fonction de chaque caractère, en fonction de chaque éducation, en fonction, Seigneur, de chaque tempérament. Ça, c'est pas ce que je peux faire, mais toi, tu peux le faire, parce que tu aimes tes enfants tels qu'ils sont. Et tu veux que nous venions tels que nous sommes les uns et les autres, et que nous apprenions à te faire confiance. Nous aimons ces mots que tu nous as laissés, Seigneur, et qui sont là comme des lettres de feu, et bien dans ce monde. Oui, Seigneur, lorsque tu nous parles de grâce, lorsque tu nous parles de liberté, lorsque tu nous parles de vie éternelle, lorsque tu nous parles de ta miséricorde. Alors merci, Seigneur, pour tout cela que nous pouvons saisir par la foi, non pas par les mérites, non pas par la loi, mais par la foi, parce que je crois en toi, Seigneur. Alors c'est peut-être un mot tout simple, mais te dire, Seigneur, je crois, et je m'abandonne entre tes mains. Merci, Seigneur. Bénis mes frères, fais-leur du bien. Donne-leur ta grâce. Fais-leur du bien ce matin, alors que tu es présent au milieu de nous, et que tu passes dans les rangs, que tu passes dans les cœurs. Oui, Seigneur, tu as vu les larmes, tu as vu les pleurs, tu as vu tous ces débats que nos âmes mènent, tous ces combats, ces choses, Seigneur, qui nous épuisent, ces choses qui nous laissent sur le côté. Et c'est vrai, Seigneur, certainement que certains n'ont jamais repris la route parce qu'ils ont été vaincus, Seigneur. Mais nous croyons, Père éternel, que toi, tu nous demandes, eh bien, de regarder à toi, d'avoir les yeux fixés sur Jésus, pour reprendre la route avec espérance, avec joie et dans la paix de notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Amen. Amen, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour ta merveilleuse présence qui nous fait vivre. Amen.